EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Souvent, on m'a dit, Daria, t'as la poisse. T'as une vie, c'est la poisse. C'est, tu enchaînes les galères et tout. Et moi, je leur réponds, je fais, mais non, mais c'est pas cette perspective-là que j'ai. Moi, ma perspective, c'est que j'ai une vie de miracle. Ma vie, c'est une succession de miracles.
Bonjour tout le monde. Alors c'est parti pour une nouvelle semaine dans À table avec Annabelle et nous allons recevoir trois femmes qui ont vécu trois histoires, trois belles histoires, mais qui ont été qui ont vécu des choses très très difficiles, très tragiques et ça aurait pu être la fin de leur vie, ça aurait pu être des moments où elles auraient pu sombrer dans la dépression et ne jamais en revenir, mais Dieu est intervenu. Et vous savez, dans À table avec Annabelle, c'est ce qu'on aime, c'est de pouvoir raconter des histoires où Dieu est intervenu, Dieu s'est levé, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire, et puis des vies où on se dit, bah, il n'y a plus d'espoir parce que là, c'est allé trop loin, ça a été trop difficile, ce ne sera pas possible, il y aura toujours des séquelles, il y aura toujours quelque chose, et bien pourtant, Dieu le fait, et ce sont des belles histoires comme ça qu'on aime entendre parce que c'est ce qui aussi glorifie Dieu dans toute sa bonté, dans toute sa justice, dans toute sa fidélité, et de se rappeler qu'au milieu de l'épreuve, eh bien pour vous, si vous êtes encore au milieu de l'épreuve aujourd'hui, il y a un espoir parce que Dieu ne vous a pas abandonné, et vous allez pouvoir l'entendre à travers toutes ces histoires qu'on va entendre cette semaine. Et aujourd'hui, pour commencer notre semaine avec Aurélie et Stéphanie, bonjour les filles.
Bonjour, bonjour.
J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, Stéphanie.
Ça fait longtemps, mais me voilà de retour.
Content de te retrouver.
Oui, moi aussi contente d'être avec vous. Toujours un plaisir, une joie. Vous m'avez manqué.
J'espère.
Un petit peu partout en France. Mais voilà, de retour, de mission.
De mission. Et nous sommes donc avec Daria. Bonjour Daria, qui est d'ailleurs en ce moment même à Singapour. Vive la technologie. Donc coucou Daria, on est heureuse de passer ce moment avec toi.
Mais moi aussi, vraiment très heureuse de partager ce moment entre filles. Voilà.
Exactement. Tu nous disais que tu étais un petit peu dans le jet lag et tout ça. Et comme on te le disait avant que ça commence, on trouve quand même que t'as bonne mine.
Moi, je peux témoigner que j'ai pas l'air d'être ça, même juste 6 heures, tu vois, pas 12. Daria dit que c'est les lunettes, alors je pense que je vais mettre les miennes. Là.
Tu sais, écoute, c'est la raison pourquoi j'ai des grandes lunettes aussi. Voilà, comme ça, ça cache la moitié les yeux.
Ah, ok. Merci pour ce conseil beauté, Daria, pour commencer. Alors, Daria, je pense qu'il y en a déjà plusieurs qui te connaissent et qui ont eu l'occasion de peut-être d'entendre ici et là des bouts de ton témoignage et qui aussi connaissent ton église à toi et ton mari, une église qui s'appelle Boom. Yes. Et c'est pas en l'honneur de Marcel Comenan avec Badaboom. Ça vient d'où d'ailleurs le nom Boom, Daria?
Alors en fait, Boom, c'est quand on a fait un peu le changement de nom là dernièrement dans notre église, c'est lié. En fait, il y a une petite phrase qu'on dit juste après, c'est Boom, le son du réveil, et c'est en lien avec Apocalypse 19 versets 6 et 7 où c'est le son d'une foule immense et on croit vraiment qu'un réveil spirituel arrive sur la France, en Europe et dans le monde. Et vraiment, on veut être cette église qui n'a pas honte de l'Évangile, qui a un son de réveil. Donc voilà, c'est bon. Il y a toute une histoire autour du nom, de ce choix de nom, et aussi dans le but de toucher une jeune génération. Donc on a vraiment à cœur, c'est notre focus en tant qu'église Boom. Du coup, c'est d'atteindre les 0-25, donc la jeunesse, les étudiants. Et donc il y a toute une vision, tout un focus, toute une idée derrière, on va dire, de l'église Boom.
Boom, donc Boom à Marseille. Et puis, avant qu'on puisse rentrer dans ton histoire, tu as écrit un livre aussi, La tempête passe, et dans lequel tu racontes un peu, tu racontes ton parcours de vie et ce par quoi tu es passé et ce que Dieu a fait aussi pour toi à travers tous ces événements qui ont été à la fois tragiques et tragiques dans ce qu'ils étaient en eux-mêmes, mais aussi dans cette succession, je dirais, d'événements qui se sont passés. Et on va pouvoir en parler un peu plus tout à l'heure. Mais pour la petite histoire, parce que moi, ça m'a fascinée. C'est que tu as donc deux sœurs, Daria. Et
oui.
Oui, j'ai envie de le dire.
Vas-y, Annabelle, exprime-toi.
Vous êtes trois sœurs et ça. Vous êtes mariées à trois frères.
Exactement. Alors, je sais que c'est super rare. D'ailleurs, on nous a même approché, la télé allemande nous a approché pour demander à faire un reportage, voire même un film
de
notre histoire. Mais donc, mais c'est assez étonnant. Donc, on est trois sœurs mariées à trois frères. Il faut comprendre que tout a commencé quand on était enfant avec mes deux sœurs, qui sont un peu plus jeunes que moi quand même. Eh bien, quand on était petites, on priait, vraiment une prière d'enfant, pour se marier avec trois frères parce qu'on est très proches. Et puis, on se dit comme ça, on va toute la vie ensemble. Eh bien, c'est ce qui s'est réellement passé. Voilà, on a rencontré trois frères. Donc, premier témoignage, le Seigneur entend et écoute et répond aux prières des enfants. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, on en est témoin, quoi. Voilà.
Avec trois, deux.
Et il y avait les trois à Marseille, un peu dans le même quartier, ce que tu disais.
Oui, c'est ça. Alors, du coup, on est tous les trois, tous les trois couples, on sert le Seigneur à temps plein. On est tous pasteurs, on sert dans la même église. Et ça, c'est vraiment quelque chose de rare, en fait. Donc, on voit vraiment le plan de Dieu aussi avec notre famille. Mm-hmm. Il y a vraiment tout qui a été écrit, comme écrit par Dieu. Et c'est vraiment merveilleux de voir ça aussi. Ouais, ouais.
Et je me disais, ça, c'est la scientifique qui parle. Vos enfants doivent se ressembler un peu aussi. C'est sûr, alors, trois sœurs avec trois... Oui.
C'est assez marrant. Non, c'est vrai qu'entre cousins, il y en a certains qui se ressemblent, d'autres pas du tout. Moi, j'ai quatre filles adolescentes. Entre elles se ressemblent pas. Ça, c'est assez marrant aussi. Mais voilà, c'est vrai que du coup... Voilà, ils sont super cousins.
Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, vous, qui nous suivez, si vous aussi, vous êtes trois filles mariées avec trois frères ou quatre filles mariées avec quatre frères, dites-le nous.
Tu montes les enchères.
Je trouve ça atypique. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse avant de pouvoir entrer un peu plus dans ton histoire. Mais bon, ça fait partie de ton histoire. Donc tu disais, t'as deux plus jeunes sœurs et puis tes parents aussi servent le Seigneur. Donc toi, t'as grandi dans une famille chrétienne avec des parents qui étaient dans le ministère, c'est ça?
Oui, voilà. Alors j'ai deux frères et deux sœurs. Donc j'ai un grand frère, je suis la deuxième. Ensuite, j'ai un petit frère et deux petites sœurs. Donc on est cinq. Oui, moi je suis née en Allemagne. Je suis venue en France à l'âge de 4 ans et je suis enfant de parents missionnaires et pasteurs. Donc j'ai baigné dans la foi depuis que je suis vraiment vraiment enfant. Je me souviens pas d'un moment où je n'ai pas aimé Dieu. Enfin, j'ai toujours été follement amoureuse de Dieu, de Jésus. Enfin, ma vie est dédiée à lui depuis toujours. Et j'ai un profond amour pour lui. Mais voilà, j'ai baigné dans une famille où Dieu était au centre. On a vécu des miracles. On a vécu aussi beaucoup de persécutions à Marseille en tant que famille allemande venue justement pour annoncer l'évangile, pour aimer son prochain. On arrivait dans un quartier de Marseille, le vieux quartier de Marseille, où il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas beaucoup de chrétiens, en tout cas on n'en connaissait pas, et il n'y avait pas d'allemands aussi, et du coup on n'était pas très bien les bienvenus. Et les premiers 7 ans, on a été assez persécutés, du coup, parce qu'on n'était pas les bienvenus, du coup. Et puis voilà, bon, c'est quand même une longue histoire, mais avec de la persévérance et avec de l'amour qui a gagné sur la haine face à la mafia, face à la criminalité, parce que le quartier dans lequel on a grandi, eh bien, c'était l'un des quartiers les plus criminels de Marseille. Et c'est là où mes parents ont fondé l'église, en fait, qu'aujourd'hui, avec mon mari, on a repris. Donc, voilà, en 2019, on a repris l'œuvre de mes parents. Donc, aujourd'hui, mes parents ont un ministère plus apostolique, on va dire, à l'international. Mais nous sommes, avec mon mari, du coup Simon, on a repris l'œuvre de l'église Boom qui compose aujourd'hui plusieurs églises et des implantations d'églises. Voilà.
Et du coup, quand vous étiez à Marseille, tu es là avec ta famille, vous servez le Seigneur, donc on comprend dans un contexte qui n'est pas facile. J'imagine que tes parents se donnent aussi énormément, tu les vois aimer les gens. Et c'est dans ce contexte-là qu'à 9 ans, toi, tu vis une agression sexuelle hyper violente en rentrant de l'école.
Oui. Alors, il faut comprendre le contexte, comme je disais tout à l'heure. En fait, on n'était pas les bienvenus. Et ce que les gens nous faisait, c'était assez violent. Donc, on nous a brûlé des voitures, on nous a cambriolé à plus de, enfin, je crois plus de 16 reprises juste dans mon enfance, les 7 années. Quand je dis cambriolé, c'est qu'ils prenaient tout, hein. C'est-à-dire, ça part, il y a tout qui partait, quoi. Même nos jouets, les sous-vêtements, le frigo. Enfin, ils nous dérobaient la maison. Et après, je dois dire que, et ça, c'est vraiment important, c'est que systématiquement, Dieu nous bénissait avec pratiquement le double de ce qu'on nous volait. Donc, on voyait tout le temps la main de Dieu, des miracles de Dieu dans notre vie. Et en parallèle, on passait par les moments difficiles. Donc, il fallait gérer émotionnellement les traumatismes. Moi, je me souviens que les familles ou les gens qui nous cambriolaient, c'était le dimanche matin parce qu'ils savaient qu'on était à l'église. Donc, à un moment donné, on se disait, y a quelqu'un qui va rester faire le guet à la maison, quoi. Et au final, on avait peur de rester à la maison parce qu'on savait que potentiellement des gens pouvaient venir cambrioler. Donc voilà, c'était un peu dans ce contexte-là dans lequel j'ai grandi. Et on savait que tout ça, c'est parce qu'on était chrétien, tout ça, c'est parce qu'on était étranger, donc immigré allemand à Marseille, en France. Et c'était pas évident. Et dans ce contexte-là, moi, en tant qu'enfant, donc avec mes frères et sœurs, on a grandi dans ça. On nous a agressés, on n'avait pas beaucoup d'amis. Enfin, c'était vraiment un temps difficile, mais en même temps, on vivait des miracles de Dieu. Et donc, il y avait vraiment un paradoxe, en fait. C'était une tension entre la souffrance qu'on vivait et entre les miracles de Dieu qui fait que jusqu'à aujourd'hui, même si je le voulais, je ne peux pas nier Dieu, ça ne marche pas parce que j'ai vu trop de miracles dans ma vie, en fait, depuis mon enfance. Et ça a forgé ma foi, mais d'une manière tellement solide que j'ai une foi qui est ancrée en Dieu très profondément et qui m'a aidée, du coup, par la suite pour passer à travers toutes les épreuves en tant qu'adulte. Et à rester fidèle à Dieu, quoi, malgré tout ce que j'ai pu vivre par la suite. Mais c'est vrai qu'à l'âge de 9 ans, du coup, ce qui s'est passé, et juste avant que j'aille dans les détails, quand je suis née, mon père, quand il m'a pris dans ses bras pour la première fois à la naissance, il a eu une vision spirituelle et il a vu comme gravé sur mon front, rien n'est impossible à Dieu. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit lui dit que ma vie ne sera pas facile, que je passerai par des épreuves, mais qu'il va faire des choses genre incroyables, des choses qui sont impossibles pour l'homme, qu'il va faire des miracles au travers de ma vie et dans ma vie, et que je devais tenir ferme. Et donc, et que mon père devait toute mon enfance, du coup, me rappeler cette vérité, que rien n'est impossible pour Dieu. Alors mon père, toute mon enfance, me le rappelait, mais genre vraiment, quotidiennement, quoi. « Daria, n'oublie pas, rien n'est impossible à Dieu. » Et à un tel point que j'en avais marre, je comprenais. Je disais « Papa, c'est bon, je comprends. » Et jusqu'à ce fameux jour où j'avais 9 ans, je sortais de l'école, 16h20, normal, et je devais rentrer chez moi, quoi, normalement, hein, il faisait jour. Et là, en fait, il faut comprendre que moi, j'habite encore dans ce quartier d'ailleurs aujourd'hui, le Panier, qui est le vieux quartier de Marseille, où c'est des petites ruelles, il faut s'imaginer un peu comme dans Naples, ou un peu, voilà, ça me fait penser un peu à l'Italie ou Montmartre, hein, je ne sais pas, c'est des petites ruelles comme ça. Et je devais passer du coup par un chemin pour rentrer chez moi. Et sur ce chemin-là, il y avait une ruelle qui était un peu, c'était comme un virage en fait. Et il n'y avait pas de possibilité d'aller ailleurs. Et il fallait que je passe par là. Et au bout de cette rue, en fait, je vois un attroupement de personnes. Je me souviens qu'en les voyant, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens le piège se refermer sur moi. Et là, j'avance parce que je dois passer pour entrer chez moi. Et là, c'est trop tard. Il m'encercle. Et quand il m'encercle, je sens et je sais qu'il va se passer quelque chose de grave. Je ne sais pas encore quoi. Et jusqu'au moment où je suis abusée sexuellement, je suis agressée sexuellement par ce groupe de personnes. J'ai 9 ans. C'est ma première, on va dire, confrontation à une sexualité qui est mauvaise à ce moment-là. Donc, je suis complètement sous le choc. J'ai un genre de blackout, c'est-à-dire que j'ai un moment où je ne me souviens plus comment j'ai réussi à m'échapper. Un des souvenirs que j'ai très clair après ce blackout, c'est que je me vois courir le plus vite possible et je pleure et je pleure et je pleure toutes les larmes de mon corps et j'ai honte, je me sens sale, je me sens coupable, j'ai l'impression que c'est ma faute, que j'ai fait quelque chose de grave et je veux juste rentrer chez moi. Et donc là, je cours et quand j'arrive chez moi, je me sens en sécurité déjà. C'est vraiment un premier sentiment que j'ai eu. Je me sens en sécurité. Et là, je vais voir mes parents. Et il faut comprendre que parce que j'ai grandi dans un contexte de souffrance et de persécution, mes parents nous ont enseigné depuis la petite enfance de tout mettre à la lumière. C'est-à-dire que c'était une valeur dans notre famille de mettre les choses à la lumière, de parler des souffrances, de parler des agressions, de parler de ce qui ne va pas, quand à l'école on nous agressait, dans la rue, etc. et pour que justement l'ennemi n'ait pas sa main dessus et que Dieu puisse toucher ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Et du coup, avec ce contexte-là et avec ces valeurs-là avec lesquelles j'ai grandi, je vais voir mes parents et là, je leur raconte mais tout ce que je viens de vivre, en pleurs, sous choc évidemment, avec les mots que je trouve, je leur raconte ce que je viens de vivre, que je viens de me faire abuser. Et là, c'est le gros choc. C'est le gros choc pour mes parents. C'est un palier de violence qui a été franchi. Mmh. Ouais. C'est-à-dire que jusque-là, on a été cambriolés, on a été agressés physiquement, on nous a brûlé les voitures. On nous a fait la misère, mais on n'avait pas touché les enfants dans ce sens-là. Mmh. Et quand est arrivé ce jour, ça a été un truc de trop, quoi. Ça a été, mes parents, ils ont crié à Dieu. Ils ont dit, Seigneur, mais on est là pour toi. Je veux dire, on est là pour te servir, on te sert, on aime les gens, on aime quand quand on nous déteste, on bénit quand on nous fait du mal. Pourquoi on touche nos enfants ? Et mes parents disaient, quand j'ai écrit le livre, je leur ai vraiment demandé en détail comment eux ont réagi en tant qu'adultes, en tant que parents. Et ils m'ont dit, mais en fait, on a crié à Dieu en disant, mais Seigneur, on est prêt à tout sacrifier, mais s'il te plaît, pas nos enfants. Enfin, pas nos enfants. Moi, j'ai grandi pauvre. On a grandi dans la pauvreté. Mes parents étaient missionnaires, donc tout était très simple. Ma mère, mes parents accueillaient plus de 17 personnes à la maison. Des personnes qui sortaient de la prostitution, des toxicomanes qui se sevraient, des alcooliques qui se sevraient. Et ma mère, elle cuisinait pour 17 personnes à la maison. Enfin, ça, c'est comment j'ai grandi. C'est dans l'amour, c'est dans le partage. Et du coup, quand leur fille aînée arrive et dit « je viens de me faire abuser », ça a été vraiment un gros choc. Et après ce choc passé, il est encore là le choc, mais malgré ce choc, je dirais plutôt, mes parents ont eu un réflexe qui a changé ma vie pour toujours. Et ce réflexe, malgré leur tristesse, leur colère et leur incompréhension, ils ont prié pour moi. Et ça a été une des prières, je dirais, qui a transformé ma vie. Et ça, c'est un premier témoignage, c'est que parfois, on croit que les prières, même une prière, parfois, ça ne sert à rien, ou ce n'est pas avec une prière que tout va changer. Eh bien, si. C'est possible parfois qu'avec une prière, tout change. Mm-hmm. Et ça, par exemple, ma vie, elle en témoigne. Mes parents, ils ont juste prié pour moi. Et quand ils ont prié pour moi, il s'est passé un miracle. Et ce miracle fait que ça a été le premier jour du reste de ma vie. D'ailleurs, j'ai appelé ce chapitre où je parle de cette histoire, je l'ai appelé comme ça. Parce que c'est littéralement ce qui s'est passé, quoi. Ils ont prié pour moi et soudainement, j'ai tremblé de tout mon corps. Mais incontrôlable.
Quand ils prient pour toi, on est encore dans ce moment où tu viens de rentrer de chez toi. Ouais. Oui. C'est pas quelques jours plus tard, c'était le moment même.
Ouais, c'est vraiment genre 30 minutes, 30-40 minutes après ce que je venais de vivre dans la rue. Okay. Parce que c'était en pleine rue ce que j'ai vécu. Et donc, c'est vraiment juste après. Tout était très frais. Et là, mes parents prient pour moi, malgré le choc émotionnel, tout ça. Et donc, j'ai une visitation, mais instantanée, de Dieu. Je tremble de tout mon corps et je tombe par terre. Je tombe jusqu'à aujourd'hui. Je me souviens exactement de la sensation quand je suis tombée. Je suis tombée comme dans des nuages. Tout était... c'était vraiment la sensation que je peux décrire le mieux, c'est... C'était doux, c'était comme dans les nuages, et pourtant je suis tombée par terre, hein, mais genre c'était foudroyant. Et là, j'étais par terre, et tout d'un coup, je vois une main dans la mienne. Et en fait, ce que je vais vous décrire, c'était pas un rêve, parce que je peux faire la différence entre un rêve et une visitation. Et là, j'ai une visitation de Dieu, ce qui était extraordinaire. Je vois une main dans la mienne, dans l'esprit, dans un monde parallèle, je vois une main dans la mienne. Et je sais instantanément que c'est la main de Jésus. C'est une évidence, c'est une certitude. Et donc, Jésus me dit, Daria, viens avec moi, suis-moi. Et à ce moment-là, j'ai 9 ans. C'est une demi-heure après l'abus sexuel que j'ai vécu. Je suis officiellement par terre, mais en réalité, je ne suis plus par terre. Et là, Jésus me dit, suis-moi. Et là, je le suis, main dans la main. Et on est sur une prairie, une genre de prairie verte, je me souviens, magnifique. Et au loin, je vois des écrans de télé... Et là, Jésus me dit, viens, on va aller voir ce que c'est. Et donc, je le suis, main dans la main. Et d'ailleurs, parce qu'on me demande parfois, je ne me souviens pas de son visage. Hein. Je me souviens de sa main. Sa main, c'était la sienne. Je vois son corps, je vois sa silhouette, mais je ne vois pas son visage. Mm-hmm. Dans tous les cas, on arrive devant le premier écran. Et là, je me vois dans l'écran, moi-même, et je me vois à l'âge de 16 ans. Et il ne faut pas oublier que j'ai 9 ans quand je vis ça. Donc, je me vois à l'âge de 16 ans aller dans une école publique. Ensuite, donc, tout excité, je me dis, ouais, c'est génial et tout. Après, je vois le prochain écran et je me vois à 16 ans rencontrer mon futur mari à l'école biblique. Et là, je me dis, incroyable, en plus, plutôt beau gosse, tu vois. plutôt bel homme. Et je me dis, mais c'est génial et tout. Ensuite, je vois le prochain écran où je me vois me marier avec ce bel homme. Je vois me marier à 18 ans. Et commencer le ministère à l'âge de 18 ans avec mon mari à Marseille. Ensuite, le prochain écran, je me vois un jour reprendre l'œuvre de mes parents qui ont fondé l'œuvre qu'ils ont fondée. Je me vois prêcher devant des prisonniers. Et en fait, je vois toute ma vie avec Jésus. On fait cette balade devant ces écrans et il me montre ma vie jusqu'au dernier jour de ma vie sur Terre. Je me vois mourir sur Terre. Je vois toute ma vie en fait sur Terre. Ensuite, Jésus s'abaisse à moi, donc on s'arrête, la promenade s'arrête, et il se met à genoux et il me regarde dans les yeux. Et je me souviens de son regard. Je me souviens d'un regard qui était plein d'amour, un regard plein de compassion, mais un regard aussi de joie. C'était trop bizarre, c'était vraiment un regard parfait, mais qui, comme si ce regard guérissait tout en fait. Et là, il me regarde et il me dit, Daria, est-ce que cette vie te plaît ? Et donc, je lui dis, mais Jésus, c'est une vie de rêve, mais je veux cette vie. Et là, il me dit, Daria, tu peux avoir cette vie à une seule condition, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu me consacres toute ta vie. Et là, je lui dis, come on, Jesus, moi, je te donne toute ma vie, je veux cette vie, c'est le rêve. Et donc, ce jour-là, je lui ai consacré ma vie entière. Je me suis réveillée, j'ai oublié comment... en fait, ce que je me souviens comme des trois premiers écrans. Je ne me souviens pas de comment je vais mourir sur Terre. Je ne me souviens pas de plein de choses de ma vie que j'ai vues. Je me suis juste souvenue qu'à 16 ans, j'irai à l'école biblique, que je rencontrerai là-bas mon mari, qu'on se marierait à 18 ans et qu'on reprendrait l'œuvre de mes parents. C'est les choses desquelles je me suis souvenue. Mm-hmm. Ce qui s'est passé aussi, c'est que quand je me suis réveillée, mes parents, donc c'était à peu près 20-30 minutes après, j'étais allongée par terre pendant 20 à 30 minutes. Mmh. Une fois que je me réveille, je me lève. Mes parents m'ont décrit qu'il y avait une lumière divine sur moi, ce qui était impossible parce qu'il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de fenêtre. Il y avait comme une lumière sur moi. Ils m'ont décrit un moment divin, que j'avais un sourire radieux. Ils m'ont dit, en fait, le sourire que tu avais, c'était tellement divin que c'était pas possible d'être aussi radieuse et lumineuse après avoir vécu ce que je venais de vivre quelques instants auparavant. Et là, la première chose que je dis à mes parents, c'est « Papa, maman, à 16 ans, j'irai à l'école biblique, je rencontrerai mon mari là-bas, je me marierai à 18 ans et un jour, avec mon mari, on reprendra l'œuvre que vous avez fondée. » J'avais 9 ans. Et donc, et aussi, ce qui était extraordinaire, c'est que quand je me suis réveillée, enfin, quand je me suis levée de ce moment, toute honte est partie, culpabilité est partie, tout sentiment de saleté, de culpabilité, de honte, tout était parti. C'est comme si j'étais libre. Ouais. Et puis aussi, quelque chose d'important, c'est que j'ai pardonné à ceux qui m'ont fait ça. J'étais comme libre de tout. Un miracle s'est produit à ce moment-là. Donc, un moment que j'oublierai jamais de ma vie et un moment qui a marqué le début du reste de toute ma vie, en fait. Mm-hmm. Et ça, c'est comment Dieu change quelque chose qui était voué à me détruire. Quelque chose que le diable avait utilisé certainement pour détruire ma valeur en tant que femme, qui je suis, mon avenir, même le plan de Dieu. Il a essayé en tout cas de détruire ça. Et quand je témoigne de cette histoire, je témoigne toujours que Dieu peut prendre la pire des histoires, la pire des choses qu'on peut vivre sur Terre, la plus honteuse, la plus dramatique, et il peut le transformer en quelque chose de magnifique. Comme chez moi, il a transformé ça en un appel à la consécration. Et ça, c'est Dieu. Voilà, ça, c'est notre Dieu.
C'est merveilleux, hein, c'est un beau témoignage. Et ce qui est fascinant dans ça, c'est que bien sûr, on sait que Dieu peut prendre des choses brisées, les pires événements de nos vies et les faire concourir à notre bien. Et c'est très encourageant ton témoignage. Mais moi, ce qui me fascine, c'est la rapidité, tu vois. Et ma question, on se connaît, ma question qui vient, c'est, je sais pas qu'est-ce que tu pourrais dire à des femmes qui, elles, ont vécu ça, mais pas eu la guérison instantanée. Tu vois, parce que Dieu agit de toutes sortes de façons différentes selon nos parcours et notre destinée. Peut-être quelqu'un peut te dire, mais moi, j'ai vécu ça, mais j'ai encore des traces de ça. Tu sais. Et derrière toi, comment on voit bien que Dieu le fait, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une femme qui nous écoute.
Oui, mais en fait, c'est une très bonne question. Et tu sais, juste pour expliquer un petit peu, ça fait maintenant des dizaines d'années que je suis des femmes. Alors, j'ai été aumônier de prison dans la plus grande prison des femmes à Marseille pendant 10 ans. Et il faut comprendre que je crois que 100% des femmes que j'ai rencontrées en prison ont été abusées sexuellement, que ce soit de l'inceste, que ce soit par même parfois dans leur propre couple, que ce soit des viols, etc. Et en fait, toute ma vie, que ce soit au sein de l'église, que ce soit dans mon voisinage, dans les travails, dans les métiers que j'ai pu faire, en tant que pasteur, en tant qu'aumônier de prison, peu importe où j'étais et dans n'importe quelle sphère aussi de la société, j'ai rencontré des femmes qui ont été abusées sexuellement. Et il y en a tellement, je ne sais plus exactement quels sont les chiffres, peut-être que vous les connaissez, les filles, mais en tout cas, il y a tellement de femmes qui sont passées par là ou qui passent par là. Et je dois dire que je crois que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a vécu ce que j'ai vécu. Mm-hmm. Alors, ce que tu poses comme question, c'est super intéressant parce que pendant des années, je me suis posé la question, pourquoi moi? Pourquoi Dieu a choisi de faire un miracle instantané dans ma vie, sachant que par la suite, et ça je le décris aussi dans mon parcours de témoignage dans ma vie, j'ai vécu des choses où je n'ai pas vécu un miracle instantané. J'ai une tumeur, j'ai une embolie pulmonaire, j'ai une maladie incurable, où Dieu n'a pas fait un miracle instantané, où j'ai attendu, pendant plus d'un an, j'ai suivi un traitement, et après un an, Dieu a fait un miracle, gloire à Dieu. Mais donc j'ai connu les deux, et honnêtement, je n'ai pas de réponse pourquoi avec moi il a fait un miracle instantané et pour d'autres eh bien c'est un vrai processus. Et c'est là où je veux en venir, c'est que toutes les femmes que j'ai pu accompagner jusqu'à aujourd'hui, que j'accompagne encore dans ce chemin de guérison, eh bien il y a cette réponse aussi, il y a un processus, il y a un chemin. Et dans ces femmes-là que j'accompagne par exemple, alors je leur partage mon témoignage et je suis heureuse de le faire parce que ça donne de la foi. Ça donne de l'espoir, ça donne aussi de voir que, en fait, c'est possible. Parce qu'en fait, cette histoire, je l'ai vraiment vécue. C'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté. Ça veut dire que ça existe. C'est vraiment possible de le vivre. Et je pense que ça, c'est quelque chose que je peux apporter au travers de mon témoignage. Et ensuite, ça, c'est quelque chose... Alors, j'ai vécu un miracle. J'ai pardonné. Depuis ce jour-là, je n'ai plus de haine. J'ai pas de ressenti par rapport à ceux qui m'ont fait ça, à mes bourreaux, je les ai pardonnés. Et en même temps, aujourd'hui, même dans ma sexualité, j'ai eu aucun problème par rapport à ce que j'ai vécu. En revanche, quelque chose que j'ai vécu, par exemple, qui m'a suivi jusqu'à mon âge adulte, ça a été, j'ai pris du poids. Depuis ce qui s'est passé, en fait, à l'âge de 9 ans, j'ai commencé à manger comme un acte un peu de protection. Parce que du coup, après, dès que quelqu'un m'agressait, ou me parlait mal, eh bien, j'étais plus grande, plus forte, et c'était comme un moyen de protection. Alors peut-être que, je ne sais pas...
Beaucoup de femmes qui vont réagir comme ça aussi,
oui.
Donc, ça leur donne comme un état de force et de...
Ouais, c'est ça. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai quand même vécu. Il y a quand même une séquelle psychologique corporelle que j'ai vécue, qui n'a pas été guérie à ce moment-là, à 9 ans, puisque je l'ai quand même vécue.
Est-ce que tu es allée chercher de l'aide pour ça? Ouais, pour Oui, vas-y.
Oui, exactement. C'est ce que j'allais en venir. En fait, suite à ça, donc, j'ai eu mon adolescence. J'avais pris beaucoup de poids jusqu'à devenir obèse. À l'âge de 13 ans, je faisais 90 kilos et j'ai pris du poids et du poids et du poids jusqu'à ce que, j'ai rencontré mon mari. Je pense que, le fait que à 15 ans, j'ai travaillé en tant qu'ébéniste pendant un an, j'ai fait un travail qui est très manuel. en fait, j'ai fait ébéniste parce que du coup, je devais travailler.
Pour faire comme Jésus.
En fait, bon, ça c'est le côté peut-être romantique, mais en réalité, je devais économiser de l'argent pour me payer mon école biblique parce que du coup, c'était, je devais me payer mon école à 16 ans, hein, parce que du coup, à 16 ans, je suis vraiment partie à l'école biblique. Donc tout était bien organisé dans ma vie, mais quoi qu'il en soit, quand j'ai rencontré mon mari, que j'avais beaucoup travaillé, j'avais perdu du poids. Ça allait un peu mieux, etc. Mais au final, il y avait quelque chose qui n'était pas réglé en moi. Mm-hmm. Donc même si physiquement, j'avais perdu du poids à ce moment-là, une fois que je suis rentrée dans mes 6 années de grande souffrance, parce que de mes 20 ans à mes 26 ans, j'ai vécu 6 années de souffrance non-stop, qui sont aussi décrits dans mon livre, mais aussi 6 années de miracles où Dieu a mis sa main sur notre vie, à mon mari et moi et mes enfants. J'ai failli mourir 3 fois, j'ai failli perdre mes 4 enfants. Et en fait, pendant toutes ces 6 années, j'ai pris beaucoup de poids jusqu'à atteindre 120 kilos. J'ai vraiment été en obésité morbide, ça a été très compliqué. Et vers mes 28 ans, quand Jésus m'a sauvée de toutes mes souffrances, de ce passage de feu pendant 6 années, vraiment, ça a été un passage de feu vraiment très, très, très fort pendant toutes ces années. Le diable a vraiment essayé de nous enlever notre vie, à moi, à mes enfants, mais il n'a pas réussi. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu a vraiment été vainqueur et vainqueur dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Mais au final, vers 28 ans, j'étais fatiguée. Et je sentais un poids qui était non seulement physique, mais plus que ça, il était à l'intérieur. Et donc là, j'ai remarqué que j'avais besoin d'aide. Donc ce que j'ai fait, j'ai dit, OK, j'ai 28 ans, je ne veux pas rester comme ça. Jésus, tu m'as sauvée de la mort, tu m'as sauvée d'une tumeur, tu m'as sauvée d'une embolie pulmonaire, tu m'as sauvée d'une maladie incurable, tu as sauvé mes 4 enfants qui devaient mourir ou être kidnappés comme Camilla, ma 3e. En fait, c'était tellement dense et intense tout ce que j'ai vécu et Dieu a fait tellement des miracles, mais à la fin, j'étais fatiguée. Je ne peux pas rester comme ça. J'ai besoin d'aide. Et donc, j'ai cherché de l'aide, une thérapeute chrétienne qui est pasteur aussi notamment et qui est spécialisée en trauma. Et donc, j'ai pris rendez-vous chez elle pendant 1 semaine. Et donc, on est là, je suis là, j'ai demandé à ma mère de m'accompagner. Donc, elle n'a pas fait toutes les sessions avec moi, mais elle était avec moi dans ces journées qu'on a passées ensemble, cette semaine qu'on a passée avec la thérapeute. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on parlait, on analysait et on priait. On parlait, on analysait, on priait. Et on faisait ça pendant 1 semaine. Et ça, de l'abus que j'ai vécu à 9 ans jusqu'à la dernière souffrance que j'ai vécue, enfin la plus récente en tout cas, qui était la naissance de ma fille Mélissa, qui est née, elle faisait 960 grammes à la naissance, a été une grande prématurée, beaucoup, beaucoup de souffrances. Et du coup, à la fin de cette thérapie, très rapide, il y a un dernier moment de prière. Et là, donc, cette dame, cette thérapeute prie pour moi. Et là, j'ai encore une fois une visitation de Jésus. J'en ai eu 2 dans ma vie. C'était à 9 ans et c'était celle à 28 ans. Et là, pareil, je vis un moment en fait où en fait je revis chaque situation. Donc je revis à 9 ans l'abus que j'ai vécu. Je revis tout en fait devant mes yeux. Je revois et je revis tous mes traumatismes que j'ai vécu dans ma vie. Et à chaque fois, Jésus vient et il me prend un sac à dos et il part avec. Il vient, il prend le sac à dos de souffrance et il part avec. Jusqu'au dernier, à la fin, il part avec le dernier sac et je me sens mais libre, complètement libre. Wow. Et là, je me dis, il s'en va, c'est bon, c'est fini. Sauf que tout d'un coup, Jésus revient. Et Jésus vient avec une couronne dans les mains qui est toute légère, qui a 6 branches. Il m'a expliqué pour les 6 années par lesquelles je venais de passer. Et il m'a dit, Daria, tu vas continuer à porter le poids de tes souffrances, mais pas comme un sac à dos lourd qui te pèse et qui t'écrase dans ta vie, mais comme une couronne belle et légère pour me glorifier dans ta vie. Et ce jour-là, j'ai décidé d'écrire un livre qui est donc « Ma couronne, c'est la tempête passe, qui glorifie le Seigneur ». Et suite à ça, j'ai été libérée finalement des séquelles que j'avais encore de quand j'avais 9 ans. Et depuis, ça a été aussi, on va dire, une nouvelle étape de vie, quoi. Une libération totale de tous les traumatismes que j'ai pu vivre.
Ouais, je trouve ça vraiment extraordinaire, ton histoire. La façon dont tu la racontes aussi. Et j'ai une question qui me vient quand même à l'esprit, parce que tu as tenu ferme tout au long de ces années. Tu es passé quand même par beaucoup de choses très difficiles. Et est-ce que tu n'as jamais demandé à Dieu pourquoi, avant de vivre cette restauration un peu finale dont tu viens de nous parler? Est-ce qu'il t'est arrivé de demander à Dieu pourquoi? Et si tu ne l'as pas fait, quelle était ta force à ce moment-là de te dire, je vais continuer à avancer avec Dieu malgré tout, malgré tout ce que je suis en train de vivre? Est-ce que tu t'es un jour t'as douté du fait que Dieu soit avec toi? Ou alors, t'as toujours été super forte et à foncer, quoi?
Alors, j'aime pas dire que j'ai été forte parce qu'en fait, la force qui m'a fait tenir dans toutes ces épreuves de ma vie, c'est mon amour pour Dieu. Je n'ai jamais douté de Dieu parce que je l'aime, en fait. Et je sais que c'est pas lui, en fait. Je sais que, au contraire, sans Dieu, je ne serais plus là aujourd'hui. Et je peux pas me blâmer lui, en fait, de ce que j'ai vécu, puisque sans lui, je ne serais plus. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'est marrant. Souvent, on m'a dit, Daria, t'as la poisse. T'as une vie, c'est la poisse. C'est, tu enchaînes les galères et tout. Et moi, je leur réponds, je fais, mais non, mais c'est pas cette perspective-là que j'ai. Moi, ma perspective, c'est que j'ai une vie de miracle. Ma vie, c'est une succession de miracles. Et c'est extraordinaire. Et donc, je pense que tout est une question de perspective. Moi, je prends la perspective de Dieu, c'est-à-dire, c'est un Dieu de miracles. Il m'a sauvée, il a sauvé mes enfants. Il y a un appel divin sur ma vie et sur celle de mes enfants. Aujourd'hui, je témoigne dans le monde entier de ce que Dieu fait. Ça libère des gens, des milliers de personnes ont pu lire mon témoignage au travers le monde, sont libérées, sont touchées, sont guéries. J'ai des témoignages de guérison juste par la lecture de mon livre où je me dis « Gloire au Seigneur ». Et si aujourd'hui, j'ai dû passer par ces années de souffrance, eh bien, je dis « Merci Jésus ». Mais pour répondre aussi un peu plus à ta question, j'ai jamais douté de Dieu. Je ne me suis jamais demandé pourquoi, mais je me suis toujours demandé comment je vais traverser ça et avec qui. Et c'était plus ça les questions. Je ne me suis jamais permise de dire pourquoi. Parce qu'en fait, ça n'avait pas de sens. Je savais très bien que je n'avais pas de réponse au pourquoi, en fait. Sincèrement.
C'est pratique.
c'est, pour moi, personnellement, c'était une question de bon sens parce que toute ma vie est basée sur l'amour de Dieu, l'amour que je porte à Dieu. Sa fidélité, donc depuis que je suis vraiment... c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je pense que mon enfance, ce que j'ai vécu dans mon enfance et aussi l'éducation profondément chrétienne, ancrée en Jésus, a été clairement un ancrage dans ma vie pour ma vie d'adulte et les épreuves que j'ai passées. Donc, j'ai jamais douté de Dieu. Ça ne veut pas dire que j'ai pas pleuré, pour comprendre, ou que j'ai pas souffert. Pour comprendre qu'avec mon mari, on a passé 6 années à pleurer pratiquement chaque jour. J'ai un tatouage sur mon bras qui est un palmier, et ce palmier en fait il est complètement tordu, et en fait l'idée de qui est derrière, et j'ai tatoué aussi bent but not broken, et en fait qui veut dire je suis plié par les tempêtes de la vie. Les tempêtes de la vie que j'ai vécues, elles m'ont plié, elles m'ont rendu humble, mais profondément, pas parce que je me dis humble et que ça paraît presque arrogant, mais je suis pliée par les épreuves de la vie, mais je ne suis pas cassée. En fait, je ne suis pas brisée, dans le sens où mes racines sont tellement profondes, enracinées dans Dieu Tout-Puissant, dans le El Shaddai qui est là aussi. En fait, ma vie, elle est tellement enracinée en Jésus que même les pires tempêtes que j'ai traversées, Elles m'ont pas cassé, mais elles m'ont plié. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un de plié par le vent de mes tempêtes, mais je suis pas cassée. Je suis là. Et au contraire, je trouve ça une belle image, le fait d'être plié, parce que je suis à genoux devant Dieu. Je suis humble devant Dieu et je l'honore lui et je vis pour lui et que ma vie jusqu'à mon dernier souffle serve à le glorifier. Voilà, que toutes mes souffrances servent à le glorifier.
Merci Daria d'avoir partagé ton histoire avec nous. Merci. Et puis pour en savoir plus, il y a ton livre La Tempête Passe, où tu décris un peu mieux ce que tu as vécu et ce que Dieu a fait dans ta vie. Et en tout cas, on a été
inspiré, encouragé. Je recommande le livre. Merci de me l'avoir envoyé. Merci. Et c'est un merveilleux livre, vraiment. Il faut mais, dire merci. Ça.
Mais tu sais, puis c'est bien que tu le dises quand les gens te disent mais Daria, t'as la poisse. Parce que aussi, quelquefois, non, mais c'est pas parce que c'est vrai, mais parce que c'est toute une question de perspective, oui. En fait. Et puis, quelquefois, on passe par des moments où on se dit mais il n'y a rien qui va, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, où on n'a pas forcément le bon sens que tu as eu et où il y a ces questions, comme disait Aurélie, c'est pourquoi, c'est pourquoi. Et puis, il y a un sentiment d'injustice, un sentiment d'oubli, est-ce que mais Dieu, est-ce que tu m'as oublié, et en fait de se dire bah même au plus profond de la tempête on peut choisir de changer de perspective et de se rappeler que Dieu est Dieu et que oui il y a un ennemi qui rôde mais nous avons un grand Dieu un Dieu qui est bon et j'aime le dire et je vais le redire encore aujourd'hui ce que Dieu a fait pour Daria et bien il peut aussi le faire pour vous et c'est pour ça qu'on veut raconter on raconte oui, c'est des personnes qui viennent raconter leur histoire, mais on raconte l'histoire, des histoires dans lesquelles Dieu est entré et a fait toute la différence. Et vous qui nous suivez, eh bien, n'écoutez pas juste en vous disant bah, « tant mieux pour elle, parce que Dieu l'a fait pour elle, mais Dieu ne le fera pas pour moi ». Non, vraiment, Dieu le fera pour vous aussi. Et Daria est une femme extraordinaire et merveilleuse, mais ce n'est pas à cause de notre propre justice, de nos bonnes œuvres et de nos propres mérites qu'on a un toucher de Dieu, que Dieu vient nous visiter, que Dieu vient nous relever, que Dieu vient nous faire du bien. Donc ne vous disqualifiez pas de la bonté de Dieu. Elle est disponible pour vous. Et comme Aurélie le dit si bien, eh bien que Dieu vous traite selon sa bonté. Et sa bonté est infinie, alors ne la négligez pas. Et je crois qu'à celle qui mettra aujourd'hui sa confiance en Dieu, eh bien tu verras cette confiance se manifester à travers différentes personnes, à travers différentes circonstances, à travers différentes visitations aussi. Donc un grand merci à toi Daria d'avoir été avec nous à l'autre bout du monde, à l'autre bout de l'horloge aussi. Et puis bah écoute, on te dit à très bientôt.
Tu es rayonnante, elle est rayonnante. Hein. Vraiment. Merci, c'est inspirant ton témoignage.
Et puis on te dit ouais c'est ça, on te dit à bientôt. Puis nous les filles, on va se retrouver mercredi. Mercredi avec une autre femme extrêmement inspirante. Garde le secret.
Je dis rien.
Bye, Daria.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.